Chers automobilistes, coûtez-vous trop cher? Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 25 juin 2024 dans la presse. Avertissement. Ceci n'est pas une chronique contre vous, chers automobilistes. Vous aimez votre voiture. Vous n'êtes pas seul. Les Montréalais font 56% de leurs déplacements en auto, ce puissant symbole de liberté dans l'imaginaire collectif nord-américain depuis les années 1950. Sauf que ce sentiment de liberté a un coût énorme. Pour le portefeuille de l'automobiliste, pour les finances de l'État, pour la société en général. Un professeur d'économie, David Benassia, et deux étudiantes de HEC Montréal, Muriel Julien et Gabrielle Baudin, ont voulu savoir combien exactement coûtait à la société chaque mode de transport dans l'île de Montréal. C'est la première fois qu'un tel exercice est fait de façon aussi exhaustive au Québec. Leur conclusion. Quand on calcule tout, l'automobiliste montréalais coûte environ 3 fois plus cher à la société que l'utilisateur du transport collectif. L'écart est encore plus grand avec le vélo et la marche. Commençons par les coûts publics pour les gouvernements. Quand on lui parle de transport collectif, pour justifier le fait qu'il n'a autorisé aucun nouveau projet d'envergure depuis 2018, le tramway de Québec a été autorisé par le gouvernement Couillard, le gouvernement Legault répond souvent que les projets sont très chers. Or, par usager, les routes coûtent à peu près aussi cher à l'État que le transport collectif. Un automobiliste montréalais coûte 2 595 $ par année à l'État, un usager du transport collectif, 2 543 $. Ces sommes comprennent toutes les dépenses gouvernementales directes. Amortissement de la construction des routes et des réseaux de transport, coûts d'entretien annuel, déneigement, coûts de fonctionnement du transport collectif, etc. Un cycliste ne coûte presque rien en dépenses gouvernementales directes, 786 $ par an. Un piéton, seulement 210 $. Mais les dépenses gouvernementales directes ne sont qu'une partie de l'équation. Il faut aussi considérer le coût social externe de chacun de ces modes de déplacement, c'est-à-dire le coût de la pollution, la congestion, temps perdu et pollution supplémentaire, les accidents, les bénéfices sur la santé et la valeur du terrain consacré à chaque mode de transport. Le coût social externe de l'auto est énorme, 6 419 $ par automobiliste par année. Un utilisateur du transport collectif, lui, n'a pas de coût social externe, mais plutôt des bénéfices sociaux externes. Le vélo est particulièrement bénéfique pour la santé. Conclusion. En tout, le coût social total d'un automobiliste est d'environ 9 014 $ par an pour la société. C'est énorme en comparaison avec un utilisateur du transport collectif qui coûte 2 449 $ par an à la société. Pour les cyclistes et les piétons, les bénéfices sur la santé sont plus importants que tous les autres coûts. Un cycliste rapporte 338 $ par an à la société et un piéton, 28 $. Vous trouvez qu'il serait plus juste de ne pas tenir compte de la valeur de l'espace consacré aux routes? Dans ce cas, le coût social total de l'auto est d'environ 7 000 $. L'auto sert plus souvent. Oui, mais on ne peut pas faire 100% de ses déplacements à pied et à vélo. Voilà un excellent point. En kilomètres, les Montréalais font environ 56% de leurs déplacements en auto, 40% en transport collectif, 2,3% en vélo et 1,8% à pied. Par kilomètre personne, l'État consacre un peu plus en dépenses gouvernementales au transport collectif, 53 sous par kilomètre personne que pour les routes, 43 sous par kilomètre personne. Mais le coût social externe de l'auto est immense. Résultat, même en tenant compte du nombre de kilomètres parcourus, le coût social total de l'auto est environ 3 fois plus important que celui du transport collectif. Le coût pour vous. L'auto coûte aussi très cher à son utilisateur, environ 3 550 $ par personne par an. L'utilisateur du transport collectif, lui, paie 580 $ par an. L'auto permet-elle de se déplacer plus rapidement à Montréal? Parfois c'est vrai, parfois non. Ça dépend de la congestion et de l'offre de transport collectif. Une voiture de F1 prise dans la circulation est plus lente que l'autobus sur une voie réservée. Et cette vitesse relative de l'auto, on la paie extrêmement cher comme société. En comptant les dépenses de l'utilisateur, les dépenses du gouvernement et les dépenses sociales, un automobiliste montréalais coûte environ 14 730 $ par an, un utilisateur du transport collectif 7 440 $, un cycliste 2 430 $ et un piéton 2 050 $. L'auto n'est donc pas une façon très efficace de se déplacer dans l'île de Montréal. Mieux vaudrait avoir des politiques publiques visant à encourager le transport collectif et actif. Ça ne veut pas dire de forcer les gens à enfourcher leur bicyclette de Sainte-Anne-de-Bellevue au centre-ville de Montréal en février. On n'est pas fou à temps plein. Ça veut dire d'investir davantage dans le transport collectif et actif afin d'offrir aux citoyens des options attrayantes, efficaces et économiques. En prime, ces investissements réduiraient la congestion dans la métropole. Rappel. Dans son budget d'infrastructure pour les 10 prochaines années, le gouvernement du Québec compte investir 2,5 fois plus d'argent dans les routes, 34,5 milliards, que dans le transport collectif, 13,8 milliards. On décide de mettre l'argent sur l'auto alors que ce n'est pas une bonne idée. La bonne gestion budgétaire, ce serait d'offrir des choix de transport aux gens, dit Muriel Julien, l'une des co-autrices de l'étude. L'étude de HEC Montréal s'est limitée à l'île de Montréal, la seule ville québécoise où les données sont suffisamment précises pour faire de tels calculs. C'est aussi la ville québécoise la plus densément peuplée et celle avec le réseau de transport collectif le plus développé. Ce qui fonctionne à Montréal ne fonctionnera pas à cette île, c'est évident. Mais les conclusions de cette étude sont tellement claires qu'elles s'appliquent sans doute à la plupart des villes comme Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. Si on y avait du transport collectif efficace, on aurait probablement sensiblement les mêmes résultats, dit la co-autrice Gabrielle Baudin. C'était « Chers automobilistes, coûtez-vous trop cher », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 25 juin 2024 dans La Presse.
Les jeunes francophones de la Colombie-Britannique face à l'insécurité linguistique, aspirations et défis, un texte de Hassan Lagsha, paru le 11 juin 2024 dans le journal La Source, en Colombie-Britannique. Les jeunes francophones de la Colombie-Britannique, bien qu'évoluant dans un contexte minoritaire, font preuve d'un engagement remarquable dans leur communauté. Ils ont des aspirations variées, allant de la promotion de la santé mentale à la lutte contre l'insécurité linguistique. Quelles sont leurs aspirations et leurs défis au quotidien et à long terme? Plusieurs jeunes leaders, engagés au sein de leur communauté, pointent du doigt l'insécurité linguistique comme un grand enjeu important à surmonter. L'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, qui se définit comme un sentiment de malaise et de gêne lié à l'utilisation du français, semble être un obstacle majeur pour les jeunes francophones en milieu minoritaire. Cette insécurité peut limiter leur épanouissement personnel et professionnel et pose un enjeu crucial. comment assurer la vitalité et la pérennité de la francophonie dans une province majoritairement anglophone? Claudia Leclerc, présidente du conseil d'administration du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, CJFCB, est une figure de proue dans la lutte contre l'insécurité linguistique. Diplômée en sciences de la santé de l'Université Simon Fraser, Claudia utilise une approche intersectionnelle pour aborder des enjeux comme la santé sexuelle des adolescents francophones en milieu minoritaire. Elle est également engagée dans le projet « Jeunes leaders des relations saines à réseau femmes » qui sensibilise les jeunes sur des sujets essentiels comme l'estime de soi et la santé mentale. L'insécurité linguistique est un grand enjeu chez les jeunes francophones, explique Claudia. Grâce à nos efforts, nous avons pu porter cette question jusqu'à la Chambre des communes et au Sénat. Sophia Lemay, promouvoir la francophonie au-delà des bancs d'école. Sophia Lemay, représentante des 14-18 ans au CJFCB, tente d'illustrer l'engagement des jeunes francophones à surmonter l'insécurité linguistique. En tant que ministre de la Santé mentale et de la Justice familiale, lors du dernier Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, au début de cette année, Sophia a acquis une expérience précieuse dans le processus législatif. Elle a également coordonné une grande collecte dans 6 écoles du Conseil scolaire francophone, CSF, récoltant plus de 2500 dons pour 4 banques alimentaires. Le rayonnement de la francophonie ne se limite pas aux salles de classe. Il touche tous les aspects de la vie sociale, y compris dans notre manière de communiquer, affirme Sophia. Notre engagement communautaire est crucial pour l'épanouissement de la communauté francophone. De jeunes leaders francophones à l'avant-garde. Dans ce combat au quotidien contre l'insécurité linguistique chez les jeunes de la province, quelques leaders francophones de la même génération continuent à s'illustrer par leur engagement et leur capacité à surmonter ces défis. C'est le cas de Claudia Leclerc, qui s'intéresse de près aux enjeux touchant la santé mentale et à la lutte contre l'insécurité linguistique. Son travail au Conseil jeunesse et à Réseau Femmes est crucial. Elle sensibilise les jeunes francophones en leur donnant les outils nécessaires pour s'épanouir dans un environnement souvent hostile. Quant à Sophia Lemay, elle incarne l'engagement communautaire des jeunes francophones. Son expérience au Parlement jeunesse et sa coordination de la grande collecte illustrent son dévouement à la cause francophone et son potentiel à inspirer ses pairs. Contexte minoritaire et défis. Vivre en tant que francophone en milieu minoritaire en Colombie-Britannique présente des défis particuliers. L'insécurité linguistique est en soi très problématique car elle peut empêcher les jeunes de s'exprimer librement et de participer pleinement à la vie de leur communauté. L'insécurité linguistique est un enjeu de taille chez les jeunes francophones, explique Claudia Leclerc, et c'est une question qui demande une attention constante, indique-t-elle. La présence de modèles de référence pour les jeunes, pouvant les inspirer, est cruciale pour favoriser leur engagement. Les jeunes francophones de la Colombie-Britannique sont des acteurs clés du développement de leur communauté. Malgré les défis liés à leur statut minoritaire, ils continuent de s'engager pour une francophonie plus forte et plus inclusive. C'était les jeunes francophones de la Colombie-Britannique face à l'insécurité linguistique, aspirations et défis, un texte de Hassan Lagcha, paru le 11 juin 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique.
Le double rêve d'indépendance de Rouba Ghazal. Un texte d'Hugo Meunier paru le 12 juin 2024 dans Urbania. la députée solidaire Rouba Ghazal a décidé d'officialiser sa candidature à la co-porte-parolerie de son parti au lendemain d'une entrevue avec votre humble serviteur. Rendu là, c'est bizarre que mon nom ne se soit pas ramassé dans le palmarès des 100 plus grands influenceurs du Québec. Je suis un homme blanc, 6 dans la quarantaine en plus. Rouba a décidé de concrétiser sa réflexion après votre entrevue. Son annonce aura lieu au parc La Fontaine demain à 11h. Tu es le bienvenu, m'a écrit un membre de son entourage au sortir de notre rencontre dans les bureaux d'Urbania. Je ne suis pas allé au rendez-vous en question, optant magnanimement pour laisser les miettes de mes scoops aux médias traditionnels. Bâillement. Ça leur changera de parler de la place Versailles ou des terrasses de la rue Peel. Bon, OK. Son entourage m'a seulement fait une boutade et l'annonce était déjà prévue avant notre entrevue. Ça explique d'ailleurs pourquoi elle échangeait des regards remplis de sous-entendus à Victor, son attaché de presse, pendant que je tâtais son désir de se lancer dans une deuxième course à la chefferie. J'aime ce parti, je suis très attaché aux membres, très à l'écoute, et j'ai une volonté de rassembler les gens derrière une voie politique de gauche, répondait Rouba Ghazal, qui avait perdu par quelques voix seulement la dernière course ultimement remportée par Émilise Lessard-Thérien. Faut dire que personne ne tombe en bas de sa chaise de voir cette membre fondatrice du parti, députée de Mercier depuis 2018, s'inscrire à nouveau à co-porte-parole Académie. Je réfléchis dans la bonne humeur, badinait-elle encore la veille, un grand sourire estampé au visage alors que sa décision était déjà prise. Celle-ci survient après des derniers mois, pour le moins houleux, au sein de QS, ébranlée par une crise interne survenue dans la foulée de la démission précipitée d'Émilise Lessard-Thérien, survenue seulement 4 mois après avoir été élue pour remplacer Manon Massé. Des voix s'étaient ensuite élevées à l'intérieur même du parti pour dénoncer le « pragmatisme » du chef Gabriel Nadeau-Dubois, déjà fragilisé par des attaques menées par l'ancienne députée Catherine Dorion, notamment dans son essai « Les têtes brûlées », publié l'an dernier. Le caucus du parti avait dû réitérer sa confiance envers son chef, avant que les militants ne leur emboîtent le pas au terme d'un conseil national houleux à la fin mai, au terme duquel la formation a adopté la déclaration du Saguenay et promis de remettre QS sur les rails en vue de gouverner. C'est dans ce contexte que Rouba Ghazal saute à nouveau dans la mêlée, se défendant d'avoir tenté de discréditer sa principale adversaire dans la dernière course à la chefferie. On a vu des couteaux plus bas que ça. On est amis, Christine, Labrie, co-porte-parole par intérim, Émilise, Lessard-Thérien, et moi. C'était un moment un peu difficile, mais je me suis rallié à Émilise sur le champ, et je l'aime de tout mon cœur, assure Rouba Ghazal. La députée dit même embrasser la vision d'Émilise, notamment dans cette volonté de se mobiliser dans toutes les régions du Québec. Parlant même de l'héritage d'Émilise, elle dit mettre la recette en pratique dans ses tournées à travers la province, notamment au Saguenay, région qu'elle représente avec la Mauricie. Nos membres sont partout, comme les idées plus progressistes. Tous les députés de QS font ces tournées régionales pour sortir de nos chambres d'écho. On a mis nos oreilles de Dumbo et on écoute le monde, au lieu de prêcher la bonne nouvelle. Illustre Rouba. Un défi de taille pour une formation dont 9 des 12 élus se trouvent à Montréal. Si elle devient co-porte-parole, QS aura de nouveau un tandem du 514. Au fait, qu'en est-il de la perspective de collaborer étroitement avec GND? Si je me fie aux rumeurs émanant de son propre parti, ça n'a pas l'air de la job la plus reposante au monde. La principale intéressée éclate de rire. Je travaille avec Gab depuis 2008. On l'a vu grandir, devenir une meilleure personne avec Manon. C'est sûr que j'y ai réfléchi, mais la réponse est oui. J'ai envie de travailler avec quelqu'un d'aussi brillant. Il est le meilleur parlementaire de sa génération, louange Rouba, qui a bien l'intention de trouver sa place aux côtés de son chef. On n'en doute pas. À la voir répondre avec passion et verve à mes questions, son enthousiasme contagieux. Même si la session parlementaire vient de prendre fin, la politicienne de 45 ans n'a pas l'intention de se la couler douce en jouant à la pétanque tout l'été avec ses ouailles au parc La Fontaine. Elle risque toutefois de passer plus de temps dans sa circonscription, question de rencontrer ses concitoyens et de prendre le pouls de son comté qu'elle ne tient jamais, jamais pour acquis, malgré ses deux victoires écrasantes au dernier scrutin. Mes collaborateurs tiennent le fort et je leur dis que je veux être là pour n'importe quelle activité dans mon comté. Ça m'aide à rester connecté. L'histoire va nous juger, c'est certain. Tant qu'à avoir la seule et première députée d'origine palestinienne en face de soi, pas le choix d'évoquer les horreurs qui se déroulent présentement dans la bande de Gaza, dans l'indifférence quasi générale de l'Occident, sauf pour quelques chefs d'État qui commencent à durcir du bout des lèvres le ton à l'endroit d'Israël. Vous écoutez « Le double rêve d'indépendance de Rouba Ghazal », un texte d'Hugo Meunier paru le 12 juin 2024 dans Urbania. Rouba Ghazal, vêtu d'un kéfi, s'est récemment levé à l'Assemblée nationale pour réclamer la fermeture d'un nouveau bureau du Québec à Tel Aviv, une idée de la CAQ qui ne remporte définitivement pas la palme du timing. Ce coup d'éclat est loin d'être un geste isolé. Déjà, en 2019, Rouba Ghazal avait livré un vibrant discours pro-palestinien en chambre, en français et en arabe, qui avait traversé nos frontières grâce à la puissance du virtuel. La cause est par ailleurs intrinsèquement liée au parcours de la députée, dont les grands-parents ont été forcés à l'exil avant de se retrouver dans un camp de réfugiés au Liban. C'est là qu'est née Rouba, avant de déménager aux Émirats arabes unis avec sa famille pendant 10 ans, pour finalement émigrer au Québec. Je ne suis jamais allé en Palestine, mais le rêve du pays fait partie de mon identité profonde. Je sens une responsabilité d'en parler en tant que personnalité qui a un micro sous le nez, affirme Rouba. Une prise de parole qu'elle sait délicate, mais qu'elle s'efforce de catapulter à l'avant-scène pour sortir des chambres d'écho de sa base militante, naturellement sympathique à la cause palestinienne. Il y a tellement de conflits et de catastrophes dans le monde que les gens font face à leur propre impuissance. Mais l'histoire va nous juger, c'est certain, craint Rouba, qui ne sent pas que ses prises de position polarisent. Pour le moment, en tout cas. Je réussis à dormir la nuit. Sur les réseaux sociaux, peu importe le sujet, les commentaires sont horribles. J'essaye de ne pas les regarder, souligne-t-elle. Sans doute une sage décision lorsqu'on est une femme en politique, racisée de surcroît. Ambassadrice du oui. Pour Rouba Ghazal, le rêve du pays ne se limite pas à la Palestine. Comme membre fondatrice de QS, cette ardente militante indépendantiste tenait à enchâsser ce projet d'émancipation nationale dans le programme du parti. QS l'a d'ailleurs nommée cette année ambassadrice de la campagne Nouveau Québec, dont l'objectif est de vendre un projet souverainiste de manière inclusive et interactive avec la population. Une façon, explique la députée, de sortir le débat de la sphère politique. L'objectif n'est pas de prêcher aux convertis, mais bien de faire l'effort de guerre d'expliquer aux gens réticents les bienfaits de l'indépendance. C'est comme en Palestine, où l'on a toujours su que c'est le peuple qui fera l'indépendance, illustre-t-elle. Cet enfant de la loi 101 incarne parfaitement la vision inclusive du mouvement dont l'espoir repose sur des ponts à ériger entre la majorité historique francophone, les immigrants, les demandeurs d'asile et les enfants de la loi 101. Elle cite Gérald Godin qui, déjà en 1984, disait « Au début, On pensait qu'on ferait le pays tout seul, ou presque. Maintenant, on pense qu'on doit le faire avec les autres. » Rouba Ghazal essaie de prêcher par l'exemple. « Quand je vois des jeunes dans la vingtaine se reconnaître en moi, voir l'espoir de se retrouver à l'Assemblée nationale, mais ne pas comprendre pourquoi je suis indépendantiste, je dois leur faire entendre une voix rassembleuse et leur parler de fierté québécoise. » Cette grande assemblée de cuisine à l'échelle provinciale pour vendre la souveraineté s'adresse d'ailleurs beaucoup aux jeunes, soit ceux qui n'ont pas été traumatisés par deux échecs référendaires. Rouba Ghazal, qui avait 17 ans au référendum de 1995, fait d'ailleurs partie de ce nombre. « J'allais au cégep Bois de Boulogne, j'étais arrivé au Québec 7 ans auparavant. » Cette période d'effervescence a été pour moi une période d'apprentissage, confie-t-elle. L'étudiante se souvient encore du discours de Jacques Parizeau, dont ce passage sur l'argent et les votes ethniques qui l'avait un peu fait sursauter. Je me souviens avoir été étonné, mais j'ai une grande admiration pour M. Parizeau et je ne veux pas le réduire à ça. Pour le reste, la députée solidaire demeure convaincue que le Québec dispose de toutes les cartes nécessaires pour prendre sa destinée en main. On est capable de tout faire au Québec. On n'a pas besoin d'un ministère de l'Environnement au fédéral pour nous dire quoi faire, ni de projets pétroliers provenant de l'Ouest canadien, résume Rouba, soulignant aussi l'urgence de durcir le ton devant les géants du Web pour protéger la culture québécoise. Sortir de la marge. Pour l'heure, son parti devra commencer par trouver un moyen de sortir de la marge où il semble plafonner depuis sa création. Pas une mince affaire si l'on considère les intentions de vote qui stagnent autour de 12% et la montée fulgurante du PQ dans les sondages. Pour sortir de cette stagnation, il faut être aussi fort sur les enjeux liés à l'identité que sur ceux liés à l'environnement, être plus présent sur des enjeux qui viennent du cœur. Si elle est en quête d'inspiration, Rouba Ghazal n'aura pas besoin de chercher bien loin. J'ai tellement reçu du Québec, je n'aurais pas eu les mêmes chances si j'étais resté dans les Émirats arabes unis. J'aimerais incarner cet amour et cette fierté que j'ai reçue. Tant qu'on n'est pas un pays, il y aura toujours ce malaise identitaire et cette peur de disparaître. C'était Le double rêve d'indépendance de Rouba Ghazal, un texte d'Hugo Meunier paru le 12 juin 2024 dans Urbania.